tous, Dieu vous bénisse, on est content. Là, on vient de chanter et on remercie notre frère Stéphane Royer qui a fait un don à la chapelle puisqu'il nous a offert ces deux trucs-là, je ne sais même pas comment ça s'appelle, des retours qui sont magnifiques. Et puis la table de mixage, ou console, un truc tout à fait moderne, extraordinaire. Il y a aussi notre frère Franck qui a participé en donnant quelque chose. Et voilà, maintenant on a du matériel de mieux en mieux. Voilà, j'espère que les prédications sont aussi de mieux en mieux, que ça vous satisfait, que vous êtes content. Enfin, les paroles de Jésus n'est pas toujours en train de parler pour qu'on soit content. Il veut aussi qu'on connaisse des choses qui nous dérangent un peu. Et qui, ça, c'est à cause des réglages, hein, parce que c'est la première fois, donc il faut les réglages, donc ça va siffler peut-être une fois ou deux. Donc je disais qu'il veut aussi, de temps en temps, mettre le couteau dans la plaie afin de purifier ce qui doit être purifié. Ce soir, justement, on va parler d'un texte, on va prendre un texte au sujet de la purification du temple. Je vous invite à prendre Jean, chapitre 2, versets 14 à 17. Ouh là là, ça résonne. On m'entend 50 fois, là. Ça fait un peu, mais c'est plus de l'écho, là, on se croirait au Grand Canyon. En parlant de ça, il faudra que je vous dise quelque chose. Jean 2, 14, 17. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que des brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez ça d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, hier soir avec mon épouse, on a regardé un film, je vous recommande, c'est sorti hier, je crois, ou mercredi, je crois. Ça s'appelle « 127 jours ». Procurez-vous ce film, regardez-le. C'est une histoire vraie. Ça s'est passé, c'est une histoire vraie. C'est un jeune homme qui est sportif et qui va tout seul faire des randonnées extraordinaires. Et là, il part dans un désert, dans des endroits magnifiques. Il y a des images magnifiques. Et malheureusement, il a un accident. Il tombe dans une crevasse et il a le bras coincé par un rocher. Et il va vivre 127 heures comme ça, seul. Personne ne sait où il est. Et ça, c'est son gros problème. Il a toujours été égoïste, il a toujours fait comme il voulait, il a toujours fait à sa tête. Voilà. Et il réfléchit. Pendant toutes ces heures, il réfléchit à tout ça, il pense à tout ça. Et il essaye aussi, bien sûr, de s'en sortir. Alors, il essaye de pousser le rocher, il essaye de gratter avec un petit couteau de rien du tout. Enfin, il n'y arrive pas, c'est terrible. Et finalement, pour pouvoir s'en sortir, mais je ne vous dévoile pas vraiment en vous racontant, en vous disant ça, le film, il en arrive au point où il est obligé de se couper le bras. Avec son petit canif de rien du tout, c'est absolument épouvantable, pour pouvoir s'en sortir, et par toutes sortes, finalement il y arrive, et par toutes sortes de circonstances, finalement il est sauvé. Et ensuite, après le film, on voit les parents, on le voit lui, le vrai, parce que là c'est un acteur qui joue, mais après on voit le vrai homme à qui c'est arrivé, il est devenu champion de toutes sortes de disciplines sportives, il s'est marié depuis, il a eu un enfant. Mais on voit aussi ses parents qui racontent et sa maman qui raconte comment elle a prié pour que Dieu dirige toute chose et comment, à une demi-heure près, les médecins ont dit qu'il ne pouvait pas vivre plus d'une heure, ce n'est pas possible. Si on ne l'avait pas trouvé là, il serait mort. Et il a été trouvé par un concours de circonstances absolument formidable. Vous voyez, quand Dieu répond aux prières, et je dis, il faut voir ce film, il faut aussi le montrer. Ce jeune homme à qui c'est arrivé était très surpris de voir que les journalistes, la télévision, tout le monde s'intéressait à son cas. Il le dit lui-même dans les bonusques, moi je dis les bonusques, hein, dans les bonus du film. Il dit, je ne comprenais pas pourquoi les gens s'intéressaient à ça. Et puis il recevait des tas de lettres et un jour il a reçu une lettre d'une jeune femme qui lui disait, quand j'ai lu votre histoire, ça m'a sauvé la vie parce que je voulais me suicider. Et en fait, de voir que cet homme voulait absolument vivre et qu'il a même été jusqu'à se couper le bras pour pouvoir vivre, ça lui a fait un choc qui l'a aidé à surmonter sa difficulté. En fait, elle ne s'est pas suicidée à cause de ça. Et pensant à cette femme et aussi à la mère qui a prié, et à tous ces gens qui se sont dévoués pour que ce garçon soit sauvé, je pense que ça vaut la peine que vous regardiez ça et que vous le fassiez regarder autour de vous et que vous en parliez avec les gens parce que c'est une très, très belle histoire. Donc le film s'appelle 127 heures. C'est avec le beau, je ne sais plus comment il s'appelle, James Franco. James Franco, c'est un acteur qui monte en ce moment. Voilà, je reviens de nouveau dans mon texte de la Bible. Et Jésus, lui, quand il voulait faire quelque chose, il a été jusqu'au bout. S'il ne lui sait pas le bras, il s'est coupé. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a fait encore plus que cet homme. Enfin bon, vous voyez, quand quelqu'un veut vraiment faire quelque chose, il était venu pour ça, il l'a fait. Et quand il était très jeune, à l'âge de 12 ans, évidemment, il n'avait pas la maturité pour faire les mêmes choses qu'à 30 ans, 32 ans, 33 ans. Quand il était conduit au temple par ses parents, à l'âge de 12 ans, eh bien, il a repris les affaires de son père entre ses mains. Hein, il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père à 12 ans? Et on le trouve en pleine discussion avec les gens du temple, avec les prêtres, avec tous ces religieux. Où ça y est, Michel va encore bouffer du religieux ce soir. Hey. C'est Dieu, son père, qui le poussait à agir comme ça. Et quelques années après, ce garçon de 12 ans a grandi. Et quand il est revenu, après le miracle de Cana, il revient, il a des disciples déjà, il y a une foule nombreuse qui le connaît, et c'était la Pâque. Vous savez, il faut vous rappeler qu'il y avait certaines coutumes répréhensibles qui régnaient dans le temple. Et quand Jésus arrive, n'est-ce pas, il est quand même indigné de voir ce qui se passe là. La loi de Moïse, elle avait été complétée par un fatras de règles, mais c'était infernal. Il y avait des exigences rigides qui était imposé aux gens, au sujet des sacrifices, au sujet des impôts. Et ces exigences avaient donné naissance à toutes sortes, à tout un système de vente et de troc. Et c'était tout ça, ça se passait à l'intérieur même sacré de la maison de Dieu. C'est dans la cour extérieure, vous aviez des étables, je vous dis l'odeur, hein, dans le temple, avec les bœufs, hein, et puis le bruit aussi. Il y avait les enclos avec les moutons, il y avait des cages avec des colombes, avec des pigeons, et puis il y avait les vendeurs qui criaient très fort, hein, elle n'est pas fraîche, mais non, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, ils criaient, n'est-ce pas, pour la valeur, ils criaient la valeur cérémonielle de chaque victime sacrificatoire, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais ils braillaient là-dedans, c'est à celui qui allait faire sa journée, sa meilleure journée, hein, voilà, et il fallait payer cash, et à cette époque, il y avait beaucoup de juifs qui venaient d'un peu partout, puis ils payaient leur impôt au temple, c'était un jour où on payait son impôt au temple. Alors bon, cet impôt devait être payé avec un cycle du sanctuaire, parce que voilà, n'est-ce pas, ça, on ne devait pas payer avec la monnaie, n'est-ce pas, du monde. Alors on devait payer selon la monnaie du temple. Alors les Juifs arrivaient avec leur argent ordinaire, il y en a qui arrivaient de partout, de l'Empire romain, et certaines monnaies portaient l'effigie de qui? De César. Alors la tronche à César dans le temple, oh c'était vilain, achetu, pas beau, pas glope du tout, ah non, pas la tête de César dans le temple, ah non, ça c'est pas sain, on peut pas accepter une chose comme ça, ah non. Alors évidemment, il y avait des changeurs qui faisaient un sacré bénéfice, ils étaient là dans le temple exerçant leur métier prospère, n'est-ce pas, de changeurs, formidable, ça c'était sain par contre, ils avaient le droit, hein. Alors voilà Jésus qui arrive dans ce cirque, pardon, dans ce temple, et il se met en devoir de nettoyer l'endroit. Il a plus 12 ans, il ne s'arrête plus pour discuter, non, il applique rapidement la force physique, presque la violence, parce que c'est la seule force de langage figuré que ces troqueurs corrompus pouvaient comprendre, sinon il n'aurait pas fait. Il a fait un fouet avec des cordes et il se met à frapper de tous côtés. Et vas-y que je te libère les moutons. Et vas-y que je te chasse les bœufs. Et vas-y que je te chasse les trafiquants. Je vous dis pas la pagaille là-dedans. Il renverse les tables des changeurs. Il répand la monnaie par terre. Il y en a qui se précipitent pour la ramasser, se disant au passage, je vais pouvoir m'en mettre dans les poches. Et il n'y a qu'avec les oiseaux qu'il est gentil. Vous avez vu, il y va plus doucement parce qu'il a pitié de ces pauvres petits oiseaux qui sont fermés dans des cages là et qui ont chaud. Alors il dit au vendeur, ôtez-moi ça de là. Il ne les renverse pas, les oiseaux. Vous voyez comment il est maître, n'est-ce pas, dans sa colère. Il est maître, il maîtrise sa colère. Et à tous ces cupides, par contre, il hurle, il crie d'une voix forte, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alors ses disciples regardent leur maître, ils sont stupéfaits, ils n'ont pas l'habitude, hein, il n'est pas comme ça d'habitude. Et puis, comme ils connaissent les Écritures, ils se disent, waouh, C'est la prophétie du psaume 69 qui s'accomplit, 69.9. Elle est en train de s'accomplir. Le zèle de ta maison me dévore. Ils sont tout contents. Alors, aucun religieux ne se manifeste. Rien. Ils disent rien. Ils font rien durant cette action vigoureuse de Jésus. Et pourquoi ils font rien? Parce qu'ils se savaient coupables de corruption et de cupidité. Et en plus, ils ont affaire à un faiseur de miracles. Il faut faire attention. Ils parlent aux démons. Et les démons écoutent ce qu'il dit. Donc, il faut faire attention avec ce mec-là, on va pas se... Là, on est coupable, il y a quelque chose qui ne joue pas, on n'est pas en bonne posture. Ils savaient très bien qu'ils étaient les premiers responsables de la profanation du temple, ils le savaient très bien. Tous dans le peuple savaient aussi que ce lieu sacré avait un grand besoin d'être purifié. Mais bien sûr, voilà pourquoi ils ne se manifestent pas. N'oubliez pas que ces religieux, ils sont animés par leur propre esprit, mais ils ont aussi un autre esprit par dedans. Esprits religieux, n'est-ce pas, c'est toujours les mêmes aujourd'hui. Alors, le seul point sur lequel ils osent questionner le purificateur, hein, ça fait penser à notre chansonnier, le purificateur, eh bien c'est pourquoi il prend sur lui de faire ce qui finalement n'est que notre devoir. Ça les travaille. Alors, ils avaient demandé, puis ils ont encore demandé, puis ils ont sans arrêt demandé, maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Et voilà ce qu'il fait, il purifie le temple. Miracle. Le temple va être purifié. Alors, Jésus se tourne vers eux, et je paraphrase un peu, il leur dit, vous avez souillé le lieu saint, je le purifie. Mais allez-y, continuez votre œuvre, détruisez-le, moi je le reconstruis en 3 jours. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Alors ils ne comprennent rien à ce qu'il dit, avec leur petit esprit humain, ils sont choqués, ils ne comprennent pas. Hein, parce que, mais ils sont, la Bible dit, ils demandent des miracles. On voudrait te voir faire un miracle. Matthieu 12, 38, 39, Matthieu 16, 1, Marc 8, 11, Jean 6, 30, 1 Corinthiens 1, 22. On voudrait te voir faire un miracle. Génération méchante et adultère, vous voulez voir des miracles? Ah, ça vous intéresse. C'est une race méchante. Et en plus, ils sont animés par un mauvais esprit. Alors quand ils retrouvent leur mauvais esprit, c'est-à-dire après avoir eu leur pauvre petit esprit humain choqué, le mauvais esprit vient et les inspire. Ils savent qu'il fait des miracles. Ça les rend plutôt craintifs. Alors, se sentant coupables en face de Jésus, qui avait le droit là d'agir légalement, alors ils sont troublés et ils ne comprennent pas que Jésus est en train de leur dire, vous avez souillé le temple fait de pierre, mais vous ne pourrez pas corrompre le temple de chair que je suis. Vous ne pourrez pas ni le corrompre, ni le souiller. Alors, vous finirez par le détruire. Alors, vous allez me tuer. Et je le sais. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Alors, pendant qu'il dit ça, puis qu'il ne comprend rien du tout à ce qu'il dit, les mauvais esprits reviennent de nouveau parce qu'ils arrivent à se ressaisir un petit peu, ces messieurs. Et ils disent, mais il parle irrespectueusement de notre temple. Ce temple magnifique. Ce temple, en fait, c'était l'expression visible, n'est-ce pas, de leur prétention. Nous sommes les enfants de l'Alliance, on n'est pas du menu frottin. Nous sommes les adorateurs du seul Dieu vivant, n'est-ce pas? Par conséquent, nous sommes supérieurs à tous les autres peuples païens, n'est-ce pas? Voilà leur prétention. Et le temple, c'était la représentation visible de cette prétention. Plus tard, ça les a beaucoup choqués, ça. Parce que plus tard, dans une parodie illégale de jugement, devant un tribunal de pêcheurs, en fait, le parjure le plus sombre s'est exprimé ainsi. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme en 3 jours, je rebâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. Oh, est-ce que vous aviez remarqué comment ils ont tourné ça? Dans Marc 14, 58. Jésus leur dit, mais allez-y, détruisez-le. En 3 jours, je refais. Et eux, ils disent, on a entendu dire, je le détruis. Ils sont terribles. Et quelques heures après, en passant devant la croix, il y a des railleurs qui sont là, qui l'insultent, qui disent, ah, toi, hein, qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de ta croix. Vous voyez que ça les a vraiment marqués, cette chose-là. Ça les a vraiment marqués. Ils ne comprennent pas, eux, humainement, ce que Jésus dit. Sinon, ils ne l'auraient pas détruit. Ils l'ont tué, ils l'ont détruit le temps. Le corps que Jésus, notre Dieu, habitait depuis quelques années, ils l'ont détruit. Depuis quelques années, Dieu ne demeurait plus dans le temple à Jérusalem, mais il ne s'en était même pas rendu compte. Il ne s'en était même pas rendu compte. Et c'est la même chose de nos jours. Et quand on le dit, vous savez, il y a quelques années, je disais, attention, il y a une conspiration, attention, vous savez, en ce moment, ce qu'on nous raconte, ce n'est pas vrai, dans les infos et tout. Tout le monde disait, ah, 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 ah. Pour puis maintenant, ils disent, ben c'est formidable, c'est incroyable ce qui arrive, hein. Il faudrait se réveiller. Oui, ben, alors aujourd'hui, je vous dis d'autres choses, vous réagirez dans 5 ans ou si ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut écouter ce que je vous dis. C'est maintenant parce qu'après, ça sera trop tard. Parce qu'il en est de même aujourd'hui. Le temple, les églises, Jésus n'est plus dedans. Dans le temple de Jérusalem, il n'était plus dedans. Ils ne s'en sont pas rendus compte. Et là maintenant, depuis que l'âge de l'Odyssée a commencé, Jésus est en dehors et il est à la porte et il frappe, pas pour rentrer, mais pour dire à ceux qui sont à lui, sortez, sortez de là, allez vivre en communauté, venez avec moi, je mangerai avec vous et vous avec moi, on sera ensemble. Et quand je dis ça,
il est gentil, hein? Il critique beaucoup les religions, mais au fond, il est gentil quand même.
Bon. Quand on regarde ce texte sacré, on s'aperçoit que même ses disciples, ils n'ont pas compris que Jésus, leur maître, ce qu'il avait voulu dire là au sujet des 3 jours et tout ça, c'est qu'après ces fameux 3 jours qu'ils ont compris, lisez bien le texte, vous allez voir, c'est après ces 3 jours qu'ils ont vraiment compris. Alors moi, j'ai une question. Il y a dans la Bible de nombreux passages où Jésus a déclaré qu'il mourrait et qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais, à ma connaissance, maintenant, j'ai peut-être mal cherché. C'est difficile quand même avec les concordances de mal chercher. Mais, à ma connaissance, cette déclaration, elle n'a été faite qu'aux disciples en privé. Jamais en public, en tout cas pas devant les religieux. Maintenant, rappelez-vous ce que disent les religieux à Pilate. Alors que Jésus est dans le tombeau, si ce n'est pas les mauvais esprits qui parlent, c'est quoi là? Écoutez bien ce qu'ils disent. Seigneur, ils disent à Pilate, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après le 3e jour, je ressusciterai. Jésus leur avait jamais dit. Mais ces mauvais esprits connaissent les choses. Ces mauvais esprits connaissent les choses. Comme par exemple les mauvais esprits qui agissent dans les astrologues et compagnie, connaissaient que Jésus allait naître. De la même manière, les mauvais esprits savaient que Jésus allait ressusciter. Alors, ces religieux qui sont possédés viennent vers Pilate. Seigneur, mon bon Seigneur, vous n'avez pas vu le bossu avec Jean-Marie? Seigneur, touchez ma bosse. Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Nous nous demandons si vous n'auriez pas meilleur temps de mettre des gardes devant le tombeau afin que, si jamais il prenait l'idée à ses disciples de venir voler le corps, alors ça serait la catastrophe, tout le monde dirait qu'il est ressuscité. Vous voyez si ce n'est pas des mauvais esprits? Vous voyez si ce n'est pas des mauvais esprits? Ils ne le savaient pas. Ces religieux-là, comme des médiums, pouvaient savoir des choses. Méchants comme ils sont, ils demandent donc qu'on mette des gardes devant le tombeau. Revenons à l'arrière. Revenons au moment où Jésus a fini de faire son nettoyage dans le temple. Le soir arrive, c'est le soir de la purification du temple. Et puis toutes les petites gens rentrent chez eux et ça discute dans les chaumières. Ah, ils n'ont pas la Starac ni des machins comme ça à la télé, donc ça parle encore dans les familles. Ça parle encore dans les familles et ce soir-là, dans les chaumières, on parlait beaucoup de ce courageux prophète de Galilée qui avait mis de l'ordre dans le temple et de ces couards religieux qui n'avaient pas osé bouger parce qu'ils se savaient bien coupables. Et puis ça y allait, les brèves de comptoir, tout le monde ne parlait que de ça. Il y avait des gens qui étaient sainement réjouis de cela, il y avait des gens qui n'étaient pas sainement réjouis de cela. Vous savez, le peuple, les gens, un jour ça vous aime, puis le lendemain ça vous crucifie. Les gens, malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Jésus connaît tout le monde et il n'a pas besoin qu'on lui raconte des choses sur vous pour savoir ce qu'il y a dans vous. Il n'a pas besoin qu'on lui dise. Jean 2, 23, 25, il connaît ce qu'il y a en vous. Alors si Jésus se présente à vous, comment voudriez-vous qu'il se présente à vous? Avec compassion ou avec un fouet? voyez, ce qu'il a fait dans le temple, c'est une contradiction complète avec la conception qu'on a de lui généralement. La tradition, ça a fait de lui une personne si douce, si réservée, que même il semble un petit peu efféminé, non? Vous trouvez pas? Il était doux, il est doux. Il était patient, il est toujours patient. Il est toujours miséricordieux envers nous. Quand nous sommes repentants, pas quand on regrette puis qu'on continue à faire, non, quand nous sommes repentants, mais il est sévère et inflexible en présence des hypocrites. Mais alors, carrément, il dénonce impitoyablement le pécheur qui s'endurcit. Impitoyablement. En fait, je dirais que, ça va peut-être vous choquer, son humeur est adaptée aux situations auxquelles il a affaire. Un choc, hein? Ses lèvres, elles peuvent exprimer aussi facilement des paroles douces, gentilles, d'encouragement, que des expressions terribles, brûlantes, d'une juste indignation, vraiment. Mais d'une minute à l'autre. Alors, mes frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Sa nature, ce n'est pas la nature constante d'un chérubin imaginé par un doux poète avec sa harpe, bling, 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 un petit peu comme celui d'Astérix, là, vous savez, espèce de doux rêveur, n'est-ce pas? Mais sa nature, c'est celle d'un homme avec des émotions, avec des passions qui caractérisent la virilité véritablement. Alors, il pleurait souvent de compassion. Et puis, à d'autres moments, il manifestait des paroles et des actions de colère dignes d'un Dieu, la juste colère de Dieu. Et il a toujours été maître de ses passions, toujours été maître de ses émotions. Et qu'il exprime de la douceur ou qu'il exprime de la violence, comme là, il a toujours été maître, il n'a jamais péché. Maintenant, comparez le doux Jésus qui rend service au nom de l'hospitalité, là où il était invité dans cette noce à Cana, il rend service, il est gentil, hein, avec le Jésus qui se fabrique et qui manie un fouet. Posez-vous la question, comment est-ce que je veux rencontrer Jésus? Avec cette douceur, cette amabilité, ou avec un Jésus avec un fouet? Ça dépend de vous. À ses disciples, un jour, il a dit, ses disciples, ils voulaient massacrer un type, une histoire, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Alors chaque matin, mes frères et sœurs, avant de sortir, passez un moment pour aller vous laver à Siloé. Siloé, ça signifie envoyé, ça signifie ange. Passez un moment pour aller vous laver. Je ne vous parle pas de votre douche. Enfin, j'espère que vous vous douchez quand même. Hein? La communauté, je sais, on se douche. Mais bon. Mais passez un moment pour vous laver en présence de Dieu. Et puis pour inviter les anges à venir, des bons anges, à venir vous accompagner durant toute votre journée. Liez et chassez les mauvais esprits, surtout les esprits religieux qui essayent de vous avoir. C'est les plus mauvais, c'est les plus fourbes. Ils ont l'air tellement saints. Et demandez à Dieu de vous remplir d'une intelligence spirituelle pour discerner quels sont les esprits auxquels vous avez affaire dans la journée. Ne vous lancez pas dans une nouvelle journée avec juste dans le temple que vous êtes une tasse de café. Soyez habités, soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, le temple, c'est vous. Alors, le diable, il veut aussi vous détruire. Il veut vous massacrer. Mais il ne pourra pas le faire, à moins que ce soit votre heure. Mais chaque jour, à chaque jour, suffit sa prière, à chaque jour suffit sa soumission, à chaque jour suffit son œuvre, sa peine, ses joies. N'oubliez pas votre autel de prière. N'oubliez pas vos réunions avec vos enfants. N'oubliez pas ces choses. Elles sont plus importantes que n'importe quoi dans votre vie. N'importe, il n'y a rien de plus important que ça. Ne le méprisez pas. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Dieu de ce que tu permets que nous puissions avoir communion avec toi dans la prière et avec la lecture de la Bible. Merci de nous ouvrir l'intelligence pour nous montrer qu'il n'y a rien de plus dangereux pour quelqu'un qui croit en toi que de devenir un religieux. Aide-nous Seigneur Jésus à toujours faire bien attention, à sanctifier nos pensées, nos paroles, notre intelligence pour qu'elle t'appartienne à toi et non pas à un esprit religieux. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous comporter de manière juste, comme toi tu es juste. Pas simplement doux, mielleux, avec aussi une sainte indignation quand il y en a besoin. Je te prie, Père, que nous ayons ce courage-là. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, je suis sur Facebook depuis quelque temps déjà et je passe des articles. Alors oui, je mets de temps en temps une photo de nous en train de rigoler à la communauté, en train de faire des grillades, en train de... Voilà, je parle aussi de mes goûts musicaux, des bouquins que je lis, que ci, que ça. De temps en temps, je mets des articles au sujet de choses terribles, comme par exemple ce qui s'est passé là, cet homme ministre du culte de l'islam en Algérie qui a fait détruire 10 églises chrétienne dans son pays, et puis qui vient, qui est reçu avec tous les honneurs ici en France pour l'inauguration d'une mosquée. Moi, je trouve scandaleux, moi, une chose comme je n'ai rien contre le fait qu'ils se construisent des mosquées. Mais de grâce, s'il vous plaît, non, enfin quand même. Hein, il y a des limites aussi à l'indécence. Moi, je trouve qu'il faut pousser une gueulante là. Et puis alors, il y a l'autre là, au mois de décembre, qui va venir avec sa pièce de théâtre, une insulte à Jésus-Christ, comme c'est pas possible, à Paris, là, une pièce de théâtre qui s'appelle Golgotha Picnic. Il faut pousser une gueulante aussi, il ne faut pas accepter. Il faut écrire au ministre de la Culture. Il ne faut pas aller manifester avec des pancartes. C'est bête, c'est idiot. Il ne faut pas aller jeter des tomates sur les acteurs. C'est des pauvres possédés. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est viser plus haut. Il faut écrire au président, il faut écrire au ministre. Il faut dire, mais c'est pas normal. Et puis cette pauvre femme-là, Bibi, qui est condamnée à mort dans son pays parce qu'elle a bu dans un gobelet, puis qu'elle est chrétienne, puis c'était un gobelet réservé aux musulmans. Mais il faut crier son indignation aussi, il faut écrire à tous ces ambassades, il faut le faire, il faut rester les « Oh ben, Jésus, il a dit, il faut tendre l'autre joue. » Ouais, bon, on voit bien que c'est pas votre joue. Mais alors j'écris des choses comme ça dans Facebook, mais alors là, il n'y a personne, à part un ou deux, personne qui répond. Ça dérange. Oh non, on ne veut surtout pas prendre parti, n'est-ce pas? Mais foutez-vous en rogne! Jésus n'a pas eu peur de se foutre en rogne, de prendre un fouet puis de taper dedans. Mais ils sont en train d'attaquer Jésus. Ils sont en train d'attaquer nos frères, nos sœurs. Et puis on resterait là. Je ne dis pas d'aller poser des bombes. Je ne dis pas de vous battre physiquement. Je ne dis pas de prendre un fouet. Même Jésus l'a fait, mais je ne dis pas de le faire. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis, au moins, montrez votre indignation. Mais non. Oh, ma chère petite maman, je suis tellement contente de voir la photo de ton père à la plage. Oh, c'est tellement... Voilà, Facebook, monsieur... Bon, c'est vrai que c'est bien, c'est agréable, c'est gentil, mais il y a des choses importantes qui se passent aujourd'hui dans notre temps, là, maintenant, qu'alors on est là tous à s'indigner, parce qu'avant la guerre, il n'y a personne qui a fait, ou pendant la guerre, au sujet des Juifs dans les camps de concentration. Ah, mais c'est horrible, personne n'a bougé. Mais on fait quoi maintenant que ça se passe aujourd'hui, là, nous? Quoi? On fait quoi, là? Rien, aucune indignation, rien du tout. Mais c'est quoi tout ce cirque? C'est un cirque aussi. Et si Jésus revenait, vous seriez du côté du fouet ou du côté de sa compassion? Il faut faire attention, mes frères et sœurs. On vit dans notre temps. Il faut arrêter de dire, ouais, dans l'ancien temps, ils faisaient ça, puis c'était des pourris. Mais de quel côté vous êtes, vous, aujourd'hui, avec votre insouciante sécurité? Faire attention, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt. On va rendre compte. Hein? Alors, bien sûr, on peut toujours avoir peur des représailles. Voilà. Si personne se manifeste, si personne ne dit rien, c'est le nom de Jésus qui est blasphémé, c'est nos frères et nos sœurs qui souffrent. Puis c'est vrai, ils habitent tellement loin, on s'en fout. Ah, si c'était mon gamin, ben, ça serait trop bien. Mais cette pauvre femme là-bas, la Bibi, je sais pas quoi, on s'en fout, elle est loin de nous. Oh, par contre, alors DSK, alors ça, vous allez bien savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, hein? Mais quelle misère, quel monde chrétien. Frères et sœurs, être réveillé, c'est aussi penser à toutes ces choses et agir en conséquence. Que Dieu vous bénisse. Amen, à bientôt. Au revoir, si vous me supportez encore, revenez sur Révélation Bible dimanche, vous aurez un autre message. Amen.